Philippe m'a demandé de parler de l'état de la situation d'un vaccin contre le VIH, rêve ou réalité. On en est encore qu'au rêve, que les choses soient claires. Et c'est vrai que c'est un domaine dans lequel j'ai travaillé il y a très très longtemps. Et puis à un moment donné, à peu près dans les années 90, j'ai décidé d'arrêter de travailler sur la recherche vaccinale contre le VIH en me disant on n'y arrivera pas de la façon dont on s'y prend, et je suis plus retournée à des études sur la physiopathologie de l'infection, mécanisme de contrôle de la physiopathologie de l'infection, parce qu'il me semblait que finalement on était un petit peu à côté de la plaque sur la recherche vaccinale. Néanmoins, je vais essayer de vous faire un point où on en est aujourd'hui. Alors, je vais commencer par un petit historique, je dirais, sur le VIH. Pratiquement jour pour jour, d'ailleurs, on en est à 37 ans de recherche sur le VIH, puisqu'il y a 37 ans, on recevait pratiquement jour pour jour le premier échantillon d'un patient français qui était atteint d'une lymphadénopathie généralisée, un homosexuel, et que c'est à partir de cet échantillon du patient qu'on a identifié le VIH. Mais ce n'est pas l'objet de ma diapositive. L'objet de ma diapositive ici, c'est pour vous dire que depuis 37 ans, l'identification du VIH, il y a eu énormément de recherches. En bleu, et je ne vais pas rentrer dans les détails du tout, le bleu, c'est tout on pourrait dire recherche plutôt d'amont, recherche fondamentale. En vert, c'est tout ce qui est lié au traitement des patients, et en rose, tout ce qui est lié à la prévention. Tout ça pour vous dire une chose, c'est s'il n'y a pas de recherche fondamentale, il n'y a pas de thérapeutique et il n'y a pas de prévention. Ça, c'est clair. Et puis, il n'y a pas non plus de test de diagnostic. Et c'est un petit peu comme cela que finalement s'est passée cette recherche sur le VIH depuis 37 ans. Une recherche tout à fait, ce qu'on aime à dire, translationnelle aujourd'hui, qui est là au départ pour essayer de développer des outils tant de diagnostic que thérapeutique. Alors, le grand pas, et je vais rejoindre ce qu'a dit finalement Philippe tout à l'heure, finalement, qu'est-ce qu'a été la révolution dans le domaine du VIH-SIDA? C'était une révolution thérapeutique. On a eu trois révolutions, trois phases. La première phase, c'est 1996, avec, sur la base de la connaissance du cycle de réplication du virus, le développement de traitements après l'AZT qui avait été démontré comme en monothérapie ne pas fonctionner parce qu'il y avait un échappement thérapeutique, le développement de nouvelles drogues comme la DDI qui montrait une petite efficacité un peu meilleure, mais surtout une combinaison thérapeutique de trois molécules, l'AZT, le 3TC et l'indinavir, c'est-à-dire en fait deux inhibiteurs de la reverse transcriptase plus un inhibiteur de protéase, et pour la première fois, une réduction très forte de la mortalité des patients. Ça a été réellement ce qui a changé la vie, j'allais dire, des patients, changé la vie du personnel soignant, changé la vie aussi des chercheurs, parce que pour la première fois, enfin, il n'y avait plus la pression que l'on avait un petit peu sur les épaules à tous avec cette tragédie auquel on assistait. La deuxième révolution, ça a été finalement l'accès à ces antirétroviraux, parce que cette combinaison thérapeutique, il fallait bien évidemment qu'elle soit accessible à tous. On n'est pas encore à l'accès à tous, mais vous voyez qu'au fil du temps, une amélioration de cet accès aux antirétroviraux dans le monde, et ça, c'est un grand pas. Et puis la troisième révolution qui rejoint finalement cette fois-ci la prévention, c'est le traitement comme prévention, et aujourd'hui encore, la meilleure prévention que l'on ait dans les mains pour le VIH, c'est la prévention thérapeutique. Cette prévention thérapeutique, elle se situe à plusieurs niveaux. Premièrement, une personne qui est sous traitement, particulièrement si elle est traitée tôt, ne va pas transmettre aux autres. C'est le U égale U. Et puis, les antirétroviraux aujourd'hui, dans cette partie verte de la diapositive, ce sont les outils de prévention qui s'additionnent aux autres outils de prévention classiques, que sont bien sûr les préservatifs, que sont l'éducation, que sont la circoncision, etc., etc. Mais en plus, les antirétroviraux en prophylaxie post-exposition, en prophylaxie pré-exposition, ou les antirétroviraux que l'on peut mettre dans des gels vaginaux, eh bien tout cela permettent justement de prévenir, et vous voyez, pour la PrEP, finalement, la prophylaxie pré-exposition, on peut avoir une efficacité jusqu'à 99% de l'infection. Je dirais que c'est clairement le meilleur des vaccins que l'on ait aujourd'hui. Alors, il y a un zéro ici, vous pouvez vous poser des questions. Ben, le zéro, c'est quand la PrEP est mal utilisée. Et à ce moment-là, bien sûr, il n'y a pas d'efficacité. Malheureusement, c'est des choses que l'on voit aujourd'hui encore, en particulier chez des jeunes femmes ou des jeunes adolescentes en Afrique qui utilisent très mal ces outils de prévention. Et puis, on a des choses qui viennent dans le futur aussi. Des choses avec de nouvelles drogues, avec de nouvelles formulations de drogues, tant pour le traitement que pour la prévention. Vous voyez ici la courbe pour les thérapeutiques avec les dernières combinaisons thérapeutiques de TDF, 3TC et dolutégravir. Dolutégravir étant un inhibiteur de l'intégrase virale particulièrement efficace qui devient maintenant recommandé. Et vous voyez, je vous montre cette diapositive pour vous montrer l'évolution des prix au cours du temps où aujourd'hui, pour moins de 100 $, les personnes dans les pays à ressources limitées peuvent avoir accès à un traitement de première ligne aujourd'hui de ces combinaisons thérapeutiques. Et tout ça n'aurait pas pu être possible sans ce que signalait Philippe il y a un instant, la mobilisation des patients, la mobilisation des activistes avec lesquels c'est vrai qu'on a été amené, j'ai été amené comme beaucoup d'autres, à travailler justement pour faire pression sur les compagnies pharmaceutiques, pour faire pression sur les politiques de façon à obtenir justement ces résultats pour l'accès au traitement, l'accès au traitement pour tous. Alors, il y a le futur, et le futur tant pour les traitements en prévention que pour les traitements, bien sûr, en thérapeutique. Eh bien, le futur, c'est les drogues à effet retard. Les drogues à effet retard qui peuvent être utilisées soit en injection, soit sous forme d'implant, soit maintenant également sous forme de patch. Un patch contenant des antirétroviraux à effet retard qui permettrait aux patients d'être traités, mais aussi d'être protégés contre l'infection HIV. Alors, ce n'est pas encore commercialisé, mais il y a des résultats extrêmement, extrêmement encourageants. Grâce à cela, que voit-on ? Que voit-on avec cette augmentation de la couverture des antirétroviraux dans le monde ? On voit une diminution de l'incidence de l'infection VIH et on voit une diminution de la mortalité au cours du temps. Vous voyez cette diminution de la mortalité. On estime aujourd'hui que depuis 10 ans, finalement, depuis 2010, il y a eu plus de 30% de réduction des morts liées au sida grâce justement à cette couverture thérapeutique. C'est pas suffisant puisque vous le voyez sur cette diapositive, on a encore aujourd'hui environ 38 millions de personnes qui vivent avec le VIH dans le monde. Il y en a 32 millions qui sont morts. J'aime à dire souvent que ça représente plus que la population totale de la France, finalement, de personnes qui sont affectées par le VIH, dont la moitié qui sont morts. Il y a seulement un peu plus de 60% des personnes qui sont sous antirétroviraux aujourd'hui dans le monde. Il y a encore aujourd'hui, récemment, on estime qu'il y a 770 000 morts de sida dans le monde et chaque année 1,7 million de personnes qui sont nouvellement infectées par le VIH, dont 180 000 enfants. Alors, donc, le problème n'est toujours pas résolu, vous le voyez. Pourtant, on a des outils thérapeutiques, pourtant, on a des outils pour la prévention. Je n'ai pas mentionné la prévention de la transmission du virus de la maman à l'enfant, mais aujourd'hui, dans le monde, on a 80% des femmes qui sont infectées par le VIH, qui sont sous antirétroviraux et qui ne transmettent donc plus à leur enfant. Mais ça ne suffit pas encore, puisqu'il reste 20% des femmes qui n'ont pas accès, et donc encore des enfants qui naissent infectés par le VIH. Et puis il y a quelque chose qui nous inquiète aussi, c'est l'augmentation de la résistance aux antirétroviraux chez des personnes nouvellement infectées, qui n'ont donc jamais vu le moindre traitement, et qui donc ont été infectées par des virus résistants aux médicaments. Et ça, ça devient inquiétant en Afrique du Sud, par exemple. On commence à voir des taux de l'ordre de 15% de résistance aux antirétroviraux. Et dans d'autres pays, y compris en Asie du Sud-Est, on est aux alentours de 7% de résistance aux antirétroviraux. Donc, il faut trouver d'autres parades, d'autres solutions. La première parade, c'est de dire qu'il faut accélérer encore le mouvement pour l'accès au traitement de façon à prévenir l'infection des autres personnes. Et c'est bien sûr la politique de l'OMS, l'ONU SIDA, avec les objectifs 90-90-90 pour cette année, pour 2020. Et vous voyez sur cette diapositive, quelque part, on ne va pas y arriver en 2020. On ne va pas y arriver puisque le premier objectif, c'est permettre à ce que toutes les personnes qui sont infectées par le VIH soient aient connaissance de leur statut d'infection VIH. On n'est pas du tout aux 90% pour l'instant, on est à 79% globalement dans le monde, avec des écarts assez grands, puisque certains pays, c'est 67% des personnes qui connaissent leur statut, et 92% dans d'autres pays. Donc, globalement, c'est déjà une première faiblesse. Trop de personnes ne connaissent pas leur statut. Deuxièmement, les 90% des personnes qui connaîtront leur statut les mettent tous sous traitement. Et on n'y est pas encore. On est à 78% globalement dans le monde. Et être certain que ces 90% de personnes qui sont sous traitement ont un virus contrôlé de façon persistante. Et là encore, on n'y est pas, puisqu'on est en ce moment à peu près à 86% des personnes sous traitement qui ont un virus contrôlé. On n'est pas à l'objectif donc souhaité. L'objectif souhaité, c'est d'avoir 73% des personnes vivant avec le VIH qui ne transmettent plus aux autres. Et aujourd'hui, selon les chiffres que l'on a, on peut estimer que seulement un peu plus de 50% de ces personnes ne transmettent plus aux autres. Et donc, on a toujours ce problème de prévention qui est parmi les priorités aujourd'hui et les grands enjeux. Et puis, bien sûr, l'accès au traitement qui compte parmi les grands enjeux. Alors, les obstacles que l'on a à affronter sont multiples. Les obstacles, ça va être des obstacles à la fois politiques, parce qu'il y a certains pays qui n'ont aucune volonté de mettre leurs patients sous traitement et de permettre la prévention par des antirétroviraux. Je suis en train de penser, par exemple, aux pays d'Europe de l'Est et d'Asie centrale. Il faut continuer les investissements internationaux. Vous savez probablement que l'année dernière, au mois d'octobre, on a eu la conférence de reconstitution du Fonds mondial à Lyon, sur l'invitation de notre président de la République, et qu'il a été obtenu l'objectif des 14 milliards de dollars des pays donateurs pour poursuivre les efforts pour l'accès à la prévention, au dépistage et aux soins pour le VIH, mais aussi pour la tuberculose, mais aussi pour la malaria. C'était le chiffre minimal qu'il fallait pour continuer l'accès aux soins. Il faut combattre contre les politiques répressives parce qu'on a quand même 75 pays dans le monde qui ont des politiques et des législations répressives vis-à-vis des populations les plus affectées par le VIH. Et vous voyez que 54% de ces nouvelles infections VIH aujourd'hui sont dans ce qu'on appelle les populations clés, que sont les homosexuels, les travailleurs du sexe, les usagers de drogue, les transgenres, etc. Et malheureusement, dans la plupart des pays d'Europe de l'Est, vous voyez qu'on a 95% des nouvelles infections aujourd'hui qui sont dans ces pays. Eh bien, il y a des politiques répressives dans ces pays qui s'opposent justement à l'accès à la prévention, à l'accès aux soins, et c'est à nos portes. Donc, si rien n'est fait dans ces pays, on aura toujours ce problème d'infection VIH et d'épidémie VIH. Il faut améliorer les systèmes de santé. On a déjà des possibilités d'optimiser la prévention, d'optimiser le dépistage, d'optimiser l'accès au traitement. Pour le dépistage, il y a les autotests aujourd'hui qui sont possibles. Les tests peuvent être faits en milieu communautaire. Il y a les drogues, les médicaments à effet retard qui arrivent, comme je vous le disais. L'accès au dépistage, l'accès aux soins par le milieu communautaire a fait ses preuves. Et puis, on commence à beaucoup utiliser tout ce qui est la santé mobile, les réseaux sociaux, etc., pour l'accès aux populations. Bref, il faut revoir complètement les systèmes de santé aujourd'hui et les modèles d'approvisionnement des populations en termes d'outils de prévention, de dépistage et de soins, en passant par des systèmes de services communautaires, en passant ensuite par des centres de soins primaires avant d'aller vers les hôpitaux et vice-versa. Donc ça, c'est un des enjeux actuels, mais ça n'est pas le seul. Ça n'est pas le seul parce que si on regarde, même si on arrive à améliorer cet accès à la prévention, cet accès au dépistage et l'accès au traitement, et on voit bien qu'on aura toujours finalement, comme dit Peter Piot lui-même, si on fait 90-90, il reste toujours 10%, et 10%, ça suffit pour maintenir une épidémie en soi. Donc on peut contrôler cette épidémie, mais on ne peut certainement pas l'éradiquer. Pour l'éradiquer, il n'y a pas d'autre solution. Il nous faut un vaccin, il nous faut aussi de nouvelles stratégies thérapeutiques, si possible, comme pour l'hépatite C, avoir un traitement qui permettrait de guérir de l'infection VIH, mais là, c'est une autre histoire. Alors, pour donc là, ce sont les grandes priorités scientifiques, je dirais, dans le domaine du VIH aujourd'hui. Essayer de découvrir un vaccin, essayer de découvrir un traitement qui permet la guérison ou au moins une rémission de façon persistante. Et ça, c'est important aussi parce que sur le long terme aussi, sous traitement, puisqu'il s'agit aujourd'hui d'un traitement à vie, on voit de plus en plus quand même ce qu'on appelle les comorbidités non-sida, à savoir des personnes qui, sur le long terme, sous antirétroviraux, développent des cancers, des troubles métaboliques, des maladies cardiovasculaires et meurent de ces maladies sans mourir de l'infection VIH. Et finalement, les nouvelles stratégies thérapeutiques du futur pourraient répondre aussi à ce problème que l'on a. Et je dirai peut-être un mot tout à l'heure. Alors, le vaccin, quel impact on attend d'un vaccin? Alors, cette, Cette modélisation qui est présentée ici sur cette diapositive montre qu'est-ce que l'on peut attendre en termes de réduction du nombre d'infections par an, d'infections VIH avec ou sans vaccin. Alors l'hypothèse qui a été faite dans ces modèles, c'est d'introduire un candidat vaccin efficace à 70%, d'avoir une couverture vaccinale minimale de 50% et d'introduire ce candidat vaccin en 2027. Et puis, dans ces modèles, on a regardé différentes situations. La situation où finalement on reste tel qu'on est aujourd'hui en termes d'accès à la prévention, la PrEP, d'accès au traitement, d'accès à tous les outils de prévention que l'on a aujourd'hui, ou alors on augmente l'accès à ces outils actuels de 50%, ou on arrive à avoir l'accès universel à tous ces outils de prévention et on y rajoute ou pas le fameux candidat vaccin en 2027. Vous voyez que si on rajoute le candidat vaccin, y compris dans les conditions actuelles, on pourrait arriver finalement à contrôler cette épidémie dans les années 2070. Clairement, le vaccin, on en a besoin, sinon on n'arrivera pas à contrôler cette épidémie de VIH. Alors où on en est ? Il y a eu de très 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 nombreux essais vaccinaux qui ont été faits. Je ne vais pas vous résumer les essais de phase 1 parce qu'il y en a eu plus de 300 dans le monde. Et je vais simplement vous résumer les essais d'efficacité qui sont finalement tous sur cette diapositive. Il y en a eu 6 au total sur cette diapositive. Ces candidats vaccins, soit ils étaient basés sur de l'enveloppe du VIH, c'est le cas des deux premiers vaccins qui étaient l'enveloppe du VIH1 sous type B ou l'enveloppe du VIH1 sous type B et E pour l'essai en Thaïlande. Vous voyez qu'il n'y a eu aucun effet, c'est l'essai qui était fait en 2003. Ensuite, vous avez eu les deux essais STEP et Pambili avec 2007 qui ont été arrêtés. C'était des candidats vaccins basés sur un vecteur adénovirus avec de l'enveloppe HIV1B et étaient faits dans différents pays, y compris en Afrique du Sud, pour l'essai de Pambili. Et là, vous voyez qu'il a été même arrêté parce que finalement, le groupe de volontaires vaccinés montrait une augmentation même de l'infection par rapport au groupe non vacciné. Le seul essai finalement d'efficacité qui a montré des résultats un peu prometteurs, c'est le fameux essai Thaï RV144 effectué en Thaïlande, basé sur une approche prime boost, l'utilisation d'un premier candidat vaccin Canary Pox suivi d'un deuxième candidat vaccin basé sur l'enveloppe du VIH1 sous type B et sous type E, puisque c'était réalisé en Thaïlande, et on a pu avoir une modeste efficacité d'environ 30% dans cet essai qui a été réalisé, comme vous le voyez, sur plus de 16 000 volontaires en Thaïlande. Ça, c'est le seul essai qui a montré une petite efficacité et 30%, ce n'est pas suffisant pour dire qu'on est un candidat vaccin. Et le suivant, le HVTN-505, basé sur un vaccin DNA et adéno, aucune efficacité également, et cet essai a été arrêté. Alors, finalement, pour l'essai thaïlandais, beaucoup d'études ont été faites pour essayer de comprendre pourquoi certains volontaires avaient été protégés et pas d'autres. Et la seule corrélation qu'on a pu obtenir, c'est une corrélation avec des anticorps contre une région conservée V2 de l'enveloppe du VIH1, une région qui était jusqu'à là totalement ignorée. Et ces anticorps, ben ces anticorps, ce n'étaient pas des anticorps neutralisants. Alors la grande question, c'était qu'est-ce que c'est que ces anticorps non neutralisants qui sont finalement associés à une protection et qui peut-être sont importants pour obtenir un vaccin efficace. Alors, ces anticorps non neutralisants, vous voyez sur cette diapositive, depuis cet essai 2009, beaucoup de choses ont été faites sur les anticorps non neutralisants et sur les anticorps neutralisants. Sur les anticorps non neutralisants, on a pu montrer qu'ils étaient protecteurs par le système ADCC, finalement. La cytotoxicité dépendante des anticorps, mais aussi par d'autres mécanismes médiés par FC. Et puis, comme le disait Philippe tout à l'heure, à l'aide des nouvelles technologies, les chercheurs, notamment américains, ont pu identifier des anticorps extrêmement, extrêmement puissants à activité neutralisante à très large spectre chez des patients au départ qui étaient des patients qu'on a appelés des élites neutralizers, c'est-à-dire des sujets qui qui avaient des anticorps particulièrement efficaces pendant une très courte période d'ailleurs de leur infection VIH. Et pendant cette période-là, les chercheurs ont caractérisé la structure de ces anticorps et la fonction de ces anticorps, et après ils ont reconstitué à partir de la structure connue des anticorps monoclonaux correspondant justement à ces anticorps extrêmement efficaces des patients. Et vous les avez pour la majorité d'entre eux qui sont déjà en clinique, vous les avez représentés ici. Vous avez les anticorps anti-V2. Certains anti-V2 ont pu être obtenus par cette approche, des anticorps contre le site de fixation ACD4 et des anticorps contre la région V3 ainsi que des anticorps contre un des domaines de la GP41 du VIH1. Et tous ces anticorps aujourd'hui sont en clinique. Donc grâce à ces approches, on a pu identifier des nouveaux sites de vulnérabilité finalement dans l'enveloppe du VIH. Alors ces anticorps, comment ils marchent? Ils marchent soit pour ces anticorps en bloquant l'infection du virus, mais comme l'a montré Olivier Schwartz en collaboration avec Michel Lucenwhite et Hugo Mouquet à Pasteur, ces anticorps, ils sont aussi capables de bloquer la transmission du virus de cellule à cellule, ce qui est quand même quelque chose d'extrêmement intéressant et important. Et puis ces anticorps, je le disais il y a un instant, ils fonctionnent aussi par d'autres mécanismes, notamment les ADCC pour éliminer les cellules infectées, mais aussi par phagocytose, par des fonctions finalement médiées par FC. Ça, ce sont les mécanismes par lesquels ces anticorps fonctionnent. Et vous voyez un anticorps qui a été développé par nos collègues en Afrique du Sud, un anticorps extrêmement efficace contre l'enveloppe, contre V2 finalement, cette région de l'enveloppe identifiée par l'essai thaïlandais. Eh bien, vous voyez ici qu'une seule injection d'anticorps avant l'inoculation du virus elle-même, avec cet anticorps de nos collègues d'Afrique du Sud, vous voyez qu'il n'y a absolument aucune infection et que l'anticorps lui-même est capable de protéger, là c'est fait chez l'animal, chez les macaques, et que cet anticorps est capable de protéger totalement les animaux de l'infection. Alors c'est quand même encourageant, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des résultats aussi encourageants que cela. Alors à partir justement de ces données un petit peu nouvelles, il y a plusieurs essais de prévention maintenant qui sont en cours et qui évaluent des candidats vaccins, mais aussi les anticorps, sous forme d'anticorps monoclonaux, soit seuls, soit combinés, et également la prophylaxie pré-exposition, qui peut être elle-même associée d'ailleurs à des candidats vaccins. Alors je vous résume ici les principaux essais pour lesquels on attend les résultats. Je ne vous donnerai pas de résultats, puisque vous voyez que pour le premier, on attend les résultats de la fin de l'étude en 2020, c'est-à-dire dans l'année à venir. On pense que les résultats vont être publiés probablement lors de collecte vaccin qui aura lieu à l'automne prochain. Cet essai, qui est basé sur finalement l'utilisation des anticorps monoclonaux en infusion, et il s'agit d'un anticorps dirigé contre le site de fixation ACD4 du Vaccine Research Center du NIH versus placebo. Ces anticorps sont donnés chez des femmes en Afrique du Sud, plus de 1900 femmes sont incluses dans l'essai, et chez des homosexuels et des transgenres en Europe et aux États-Unis, avec une inclusion de plus de 2700 personnes. Ensuite, vous avez des essais avec des candidats vaccins. L'essai HVTN-702, aussi appelé UAMBO, est un essai qui vise finalement à répéter quelque part l'essai thaïlandais, puisqu'il s'agit du canary pox avec, contenant des épitopes du VIHA, avec l'enveloppe sous type C de VIHA. Cet essai est fait en Afrique du Sud, plus de 5000 personnes incluses dans l'essai, et on aura les résultats en 2021. Deux autres essais vaccinaux sont basés sur l'utilisation d'un vecteur adénovirus. C'est un vaccin mosaïque, finalement, contenant des épitopes du VIH1, plus de l'enveloppe sous type C de VIH1. Ce sont des essais qui sont faits soit en Afrique du Sud, chez les femmes, ou alors en Amérique et en Europe, chez des homosexuels. Essai attendu pour résultat 2021-2023. Enfin, la PrEP associée à un vaccin également, étude en cours chez des hommes et chez des femmes en Afrique subsaharienne. Il s'agit d'un vaccin ADN, ici, associé à de la PrEP par voie orale. Pas de résultat avant 2023, et en comparaison avec de la PrEP injectable, avec un essai aussi en cours avec le cabotegravir, un inhibiteur d'intégrase versus la PrEP classique. Donc voilà les essais en cours aujourd'hui par nos collègues américains, notamment HVTN aux États-Unis et le réseau prévention américain. Et puis en France, il y a plusieurs études en cours, dont celle du Vaccine Research Institute. Alors, le Vaccine Research Institute, ce n'est pas des essais d'efficacité encore aujourd'hui du tout. C'est des essais qui sont pour la plupart des vaccins thérapeutiques avec l'essai d'ALIA 2. Cet essai d'ALIA 2, il vise à quoi ? À regarder si des cellules dendritiques de patients infectés par le VIH qui sont pulsées par des lipopeptides réinjectés aux patients et en utilisant un adjuvant, eh bien là, on va pouvoir faire un essai d'arrêt thérapeutique chez les patients. L'autre essai thérapeutique aussi, c'est l'utilisation d'un vaccin DNA plus un vaccin MVA comme vecteur associé à un anti-intégrine pour améliorer la réponse à la fois T, à la fois B, y compris au niveau intestinal. Et enfin, un seul essai prophylactique qui sera finalement une phase 1, qui sont des cellules dendritiques, cette fois-ci pulsées avec une protéine de fusion anti-CD40 et enveloppe du VIH1 et ce sera associé à un vaccin DNA pour essayer d'améliorer à la fois la réponse T et la réponse B. Ce sera un essai, j'ai dit, de phase 1. Vous voyez, pas de résultat réellement avant 2022 pour ces essais de phase 1-2. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre dans les 5 années qui viennent ? On peut attendre en 2020 de savoir si les anticorps neutralisants à large spectre sont capables de protéger cette fois-ci chez l'homme, puisqu'on doit avoir les résultats en fin d'année au plus tard. On va savoir si les nouvelles stratégies vaccinales qui sont basées sur des protéines d'enveloppe native sous forme de trimères ou sur différents vecteurs, on va savoir si on peut arriver à obtenir une efficacité des vaccins basés sur des anticorps non neutralisants et si ces vaccins sont capables d'induire des anticorps neutralisants chez l'homme, et ça on le saura aux alentours de 2021-2022. Pour les essais de phase 3 et d'efficacité, vous voyez qu'on va être obligé d'attendre vers 2025. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, les modèles qui sont faits, ce sont des modèles qui se basent sur des candidats vaccins qui pourraient être accessibles s'ils sont efficaces à plus de 60% dans les années 2025-2027, pas avant. Donc, il va falloir être patient pour savoir si le rêve peut se transformer ou pas en réalité. Les candidats vaccins, et je vais finir sur cet aspect-là rapidement, c'est bien sûr pour la prévention, mais c'est aussi pour les thérapeutiques de demain, parce qu'on a besoin aussi d'avoir ces nouvelles thérapeutiques. Vous savez que pour l'instant, on a un seul, peut-être deux, patients qui sont guéris de l'infection VIH. On a Timothy Brown, le patient de Berlin, qui a subi quand même un traitement particulièrement compliqué puisqu'il a développé une leucémie alors qu'il était sous antirétroviraux. Il a subi deux greffes de moelle successives à partir d'un donneur qui avait des mutations dans un des récepteurs principaux du VIH1. À part Timothy et peut-être un patient à Londres, c'est les deux seules personnes qui sont guéries aujourd'hui du VIH. Alors, la guérison, c'est souvent ce qu'on dit, une mission impossible. Par contre, on croit réellement à pouvoir obtenir ce qu'on appelle une rémission durable sans antirétroviraux. Et ça doit être possible parce qu'on a des preuves de concept sur lesquelles... on travaille beaucoup dans le monde aujourd'hui, y compris à Pasteur, dans l'équipe de Michaela Muller et avec Azier, qui ont travaillé notamment sur des contrôleurs naturels de l'infection VIH1, qui sont des personnes infectées par le VIH1 et qui n'ont jamais reçu le moindre traitement antirétroviral. Et qui, ça représente très peu de patients. Vous voyez que ça représente moins de 0,5% de tous les patients qui sont infectés par le VIH. Et on a constaté, ils ont constaté, que ces patients avaient un background génétique favorable, HLA-B27, HLA-B57. Et donc, c'est un modèle d'étude pour essayer de comprendre quels sont les mécanismes qui leur permettent de contrôler leur infection VIH. Et puis l'autre groupe de patients intéressants, ce sont les traitements, ce qu'on appelle les post-traitements contrôleurs, les PTC ou encore les patients Visconti. Ce sont des patients qui, eux, ont été diagnostiqués très tôt pour une infection VIH et avec une infection VIH sévère, avec avec beaucoup de symptômes. Et en fait, pendant cette période, ils ont été traités finalement dans les 10 semaines qui suivaient l'exposition au virus, très 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 tôt. Et ces patients, au bout d'un certain nombre d'années sous traitement, vous voyez globalement au bout de 4 ans sous traitement, ils ont arrêté leur traitement à leur demande pour les premiers patients. eh bien, ils représentent environ 5% des patients traités très tôt, eh bien, eux aussi continuent à contrôler naturellement aujourd'hui leur infection. C'est deux modèles intéressants parce qu'on peut essayer justement de savoir par quel mécanisme ils arrivent à contrôler la réplication de leur virus sans avoir du tout de traitement. Alors, pour faire bref, je dirais que les contrôleurs naturels qui n'ont jamais vu de traitement, on peut dire qu'ils ont des fonctions TCD4 optimales et des réponses TCD8 optimales. Et puis, les post-traitements contrôleurs, les patients Visconti, on commence à identifier chez eux une sous-population de cellules NK particulières. Vous voyez là, pour les contrôleurs du VIH, la réponse TCD8 optimale. Vous voyez, quand on rajoute leur TCD8 à leur TCD4, on contrôle parfaitement bien l'infection. Asier et son équipe, ils ont pu identifier une sous-population de cellules TCD8 plus mémoire tout à fait efficace avec des séquences signatures dans ces cellules, et ils ont pu montrer que ces sous-populations de cellules spécifiques TCD8+, qui sont dirigées contre GAG de VIH1, elles ont une capacité de survie importante et elles ont des caractéristiques métaboliques tout à fait particulières. Et ces caractéristiques métaboliques, vous voyez ici sur le côté de cette diapositive, quand on traite les cellules TCD8 par l'IL-15, eh bien on peut restaurer justement reprogrammer quelque part cette fonction métabolique qui permet aux cellules de contrôler l'infection, comme le montre ici cette diapositive. Donc des résultats intéressants. Et pour les patients en Visconti, ces patients Visconti, on sait qu'ils ont un HLA particulier qui n'est pas l'HLA B27-B57 qu'on trouve chez les contrôleurs, mais on trouve chez bon nombre d'entre eux un HLA B35 qui est associé justement au contrôle de l'infection. Et cet HLA B35, lorsqu'il est associé à l'un des ligands des cellules NK, on voit que c'est là qu'on a la meilleure rémission, la meilleure durée de rémission chez les patients qui ont été traités de façon précoce. Et la caractérisation des cellules NK de ces patients montre un phénotype particulier de ces cellules qui sont capables, là aussi, de contrôler l'infection VIH chez les patients. Alors, il y a un essai clinique en cours aujourd'hui qui va essayer, sur la base des marqueurs NK génotypiques et phénotypiques des patients, de faire des arrêts thérapeutiques pour voir justement si ces patients qui ont ces caractéristiques génotypiques et phénotypiques de leur NK sont ceux qui sont des contrôleurs naturels finalement de cette infection VIH, et de caractériser mieux en avant la réponse. Alors pour les challenges aujourd'hui, les grands enjeux, c'est, vous l'avez compris, ce qu'on appelle les réservoirs viraux, à savoir que chez les patients qui sont sous antirétroviraux, il reste des cellules infectées par le VIH, même sous traitement, et que ces cellules, soit elles sont capables d'une réplication à bas bruit résiduelle, et on a de plus en plus de données aujourd'hui qui démontrent que même sous antirétroviraux, dans certains tissus lymphoïdes, en particulier dans les ganglions, en particulier dans l'intestin, eh bien, il y a encore une réplication résiduelle à très bas bruit du virus VIH. Et puis, surtout aussi, on sait maintenant qu'il y a des cellules qui sont infectées par le VIH à l'état latent, et que ces cellules qui contiennent le virus à l'état latent, elles prolifèrent. Elles prolifèrent de façon clonale, de façon similaire aux cellules tumorales, en fait. Et elles expriment d'ailleurs un certain nombre de marqueurs que l'on retrouve aussi sur les cellules tumorales, et qui sont des marqueurs qui sont connus comme étant associés à une régulation négative des réponses T. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas une réponse optimale chez les patients. Ces réservoirs viraux, clairement, ils sont établis extrêmement tôt dans l'infection VIH, donc il faut agir vite. Et le maintien de ces réservoirs viraux est lié aussi à une inflammation et à une activation anormale qui s'établit aussi extrêmement tôt dans l'infection à VIH. Donc tout ceci, et cela a été très bien montré dans les modèles animaux, cet établissement extrêmement précoce des réservoirs viraux et les anomalies d'activation sont réellement quelque chose sur lequel il faut travailler pour les stratégies du futur et pour améliorer les réponses immunitaires. Alors les opportunités aujourd'hui, si on se base un petit peu uniquement sur celles qui sont liées finalement au développement de candidats vaccins, on essaye d'une part d'améliorer la réponse TCD8+, par des candidats vaccins comme adénovirus ou MVA, vaccination adénovirus MVA associé à des adjuvants comme le TLR7. Et là, il y a eu des résultats encourageants pour, notamment chez le singe, pour contrôler finalement les réservoirs viraux chez les macaques infectés par le SIV. Il y a aussi l'utilisation de thérapies géniques en modifiant les cellules T, en modifiant le récepteur à l'antigène chez les personnes et optimiser ainsi la réponse TCD8+. Il y a l'utilisation d'anticorps à double affinité, un anticorps qui va cibler les cellules TCD4 qui expriment l'enveloppe du virus à leur surface, et un deuxième anticorps qui va activer les cellules TCD8+ pour tuer immédiatement les cellules latentes activées par les cellules TCD8+. Et puis il y a tout ce qui est autour des cellules NK, en particulier l'utilisation des anticorps neutralisants à large spectre, comme pour le vaccin, pour essayer d'éliminer les cellules infectées par le VIH. Et il y a un essai vaccinal qui va commencer chez l'homme en France sous peu et qui va utiliser les anticorps de Michel Nissen-White, qui sont assez prometteurs, comme vous le voyez sur cette diapositive, avec des résultats qui ont été obtenus chez l'animal, mais avec des résultats qui commencent à être encourageants aussi chez l'homme. Vous voyez ici, dans cette expérience, il y a eu deux anticorps utilisés de façon combinée, qui sont des anticorps contre l'enveloppe du virus VIH-A. Soit seul, vous voyez que ces anticorps sont ajoutés ici juste après l'arrêt des antirétroviraux. Et on regarde quel est le délai avant le rebond du virus après arrêt par les antirétroviraux. Et vous voyez que quand on associe les deux anticorps ensemble, eh bien là, on a un retard très important justement de ce rebond du virus après arrêt des anticorps, après du traitement. Donc c'est quand même assez prometteur. Et donc, comme je disais, il y a un essai qui va commencer en France dans le cadre de traitement précoce des patients infectés par le VIH, les traiter par des antirétroviraux, arrêter, traiter par des anticorps monoclonaux et faire un arrêt thérapeutique chez les patients pour voir le rebond du virus à l'arrêt du traitement. Alors, où va-t-on aujourd'hui? Je dirais globalement, on va pour la prévention, vous l'avez compris, chez l'utilisation des anticorps, notamment des anticorps à large spectre de neutralisation, l'utilisation de divers candidats vaccins, en association, pourquoi pas, avec tout ce qui est outils de prévention basés sur l'utilisation des antirétroviraux. On va vers le traitement avec des antirétroviraux de plus en plus efficaces, des allègements thérapeutiques aussi, et puis les drogues à effet retard, et puis beaucoup d'études aussi aujourd'hui pour essayer d'identifier de nouveaux outils de diagnostic ou de pronostic de l'évolution de l'infection VIH qui permettrait d'avoir de nouveaux marqueurs et d'aller vers une médecine personnalisée dans le futur, y compris pour les traitements du futur. Alors, ces traitements du futur, c'est soit les vaccins thérapeutiques, soit les anticorps aussi à large spectre de neutralisation, en particulier pour stimuler les réponses NK, mais aussi la thérapie génique dont je n'ai pas parlé, ni l'approche qu'on appelle « shock and kill », choquer, c'est-à-dire activer les cellules latentes et les tuer immédiatement. C'est un peu ce que certains anticorps bispécifiques peuvent faire. Ce type d'approche en utilisant des drogues jusqu'à présent n'a pas marché, je dois dire. L'accès universel à ces vaccins, à ces traitements du futur, pour les traitements du futur, il faudra absolument qu'ils soient moins de 1 400 $ pour pouvoir cet accès universel à tous et à toutes. Et je finirai en disant, ben, vous voyez qu'en finir avec l'épidémie du VIH, c'est un rêve qui n'est pas encore réalité. Il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire qu'il faut garder en mémoire. Finalement, ce que disait Louis Pasteur, qu'il faut absolument être persistant pour arriver justement à avoir ce candidat vaccin qui pourrait marcher à la fois pour la prévention, mais pourquoi pas aussi pour les traitements du futur, être aussi persistant que le VIH lui-même l'est, pour essayer de surmonter ce virus. Et puis je pense aussi qu'en avançant dans la recherche vaccinale sur le VIH, on pourrait peut-être aussi essayer d'améliorer les vaccins contre d'autres pathologies, comme le disait Philippe tout à l'heure. Et ça, c'est aussi un bénéfice, je dirais, de la recherche, de pouvoir servir à d'autres pathologies. Je vous remercie de votre attention.